Bonjour, frères, sœurs, amis. Vous êtes salués non pas uniquement par moi, mais par Dieu, notre Père, et par Jésus-Christ. Puis vous avez quand même un avantage, parce que dans les actualités, on lisait « Hotline pour spécial Apocalypse ». Donc, il fallait mettre en place quelque chose, un moyen, pour empêcher les gens d'avoir peur. Mais nous, nous avons un gros avantage parce que nous avons une hotline 24 heures sur 24 et nous pouvons demander à tout moment ce que nous avons à faire, ce que nous pouvons avoir. Donc, nous sommes des privilégiés. Et j'aimerais quand même encore que nos remerciements aillent à tous les musiciens, les techniciens, les nettoyeurs, les prédicateurs et toute personne qui, de près ou de loin, aide au bon fonctionnement de cette communauté. Et ceci pendant toute l'année 2012. Parce que nous restons, pour le moment, fixé sur cette date, fin de l'année. Et nous avons le gros avantage de pouvoir remercier notre Dieu, notre Père, pour cette année bénie que nous avons passée avec son aide, son amour, sa consolation, et que nous soyons reconnaissants d'être aujourd'hui en sa présence et dans son amour. Et en même temps, j'aimerais que l'on ait une pensée pour nos jeunes qui sont en camp, afin que ce camp soit pour eux un événement, non pas simplement physique, s'ils ont encore de la neige, je ne sais pas, mais surtout spirituel, qui reviennent ayant eu une communion intense avec le Seigneur. Puis j'aimerais vous laisser quand même et vous demander que pendant les deux jours, un jour et demi qui reste, que vous vous remémoriez les bienfaits que vous avez eus, les bienfaits de cette année 2012. Réfléchissez, remémorez-vous ce que votre Père, et que notre Père est toujours là, et ce qu'il vous a dit. Puisque, dans Matthieu 20, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, si vous gardez cela en mémoire, ça vous permettra, jour après jour, d'avoir quelqu'un, cette hotline, afin que vous marchiez, vous viviez tranquille, heureux. Et puis, avant de penser à l'année prochaine, j'aimerais quand même lire le verset de Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que ce verset soit avec vous toute l'année prochaine. Et puis, avons-nous une vision? La vision de ce que notre témoignage pourra être l'année prochaine auprès de nos contemporains. Maintenant, nous allons remettre cette séance, ce moment, dans la prière. Père Céleste, en Jésus-Christ, merci parce que tu es toujours avec nous. À tout instant, nous pouvons nous réclamer de toi, puisque même Jésus a dit Ce n'est plus à Jérusalem que vous irez prier, mais par l'Esprit en tout temps. Merci parce que tu vas nous donner des paroles pour cette journée, pour les jours qui viennent, qu'elles nous accompagnent et que surtout nous prenions ta parole au mot. Merci pour ce moment que nous passons ensemble. Amen.
En fin d'année, en général, on fait un bilan de l'année écoulée. Parfois, le bilan est positif, d'autres fois, il l'est moins, ou quelquefois, il peut même être négatif. Mais si on fait le bilan de la fidélité de Dieu, il est toujours positif. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. J'ai envie de vous lire une histoire que j'ai reçue il y a quelque temps d'une amie. C'est l'histoire d'un homme dont la fidélité à Dieu se manifestait de manière très simple, mais authentique et touchante. Je vais vous la lire. Un pasteur disait un soir, assez soucieux, au concierge de son église, « Je suis tracassé par le fait que chaque jour à midi, depuis des semaines, un pauvre vieux aux habits râpés entre dans l'église. » Je peux le voir depuis la fenêtre du presbytère. Il s'avance vers le chœur, il n'y reste que quelques minutes, puis il ressort. Cela me paraît bien mystérieux. J'aimerais bien que vous puissiez l'interroger. Le lendemain, et plusieurs jours de suite, le concierge vérifie qu'en effet, ce pauvre visiteur, sur le coup de midi, entre dans l'église pour un court moment, puis sort sans hâte. Il l'accoste enfin. « Bonjour !» Je vous vois venir très régulièrement à l'église. Savez-vous que vous êtes un des plus fidèles paroissiens ? Je viens prier, dit tranquillement le vieil homme. Allons donc, vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous allez seulement jusqu'à l'autel, puis vous repartez. C'est exact, reprend le vieil homme. Mais voyez-vous, je ne sais pas faire une longue prière. Pourtant, je viens chaque jour à midi et je lui dis simplement, « Jésus, c'est Simon ». Puis j'attends une minute et je me retourne. C'est une petite prière, mais je crois qu'il m'entend. Peu après, le pauvre Simon est renversé par un camion. On le transporte à l'hôpital. Là, malgré les efforts du personnel, beaucoup de malades sont grincheux et irrités, se plaignant du matin au soir. Mais voilà qu'un jour, une infirmière entend un éclat de rire. Elle s'étonne et demande « Qu'est-ce qui se passe? Vous voilà aujourd'hui de bonne humeur comme je ne vous ai jamais vu ?» Oh, c'est à cause du vieux Simon. Il souffre, il a mal, mais jamais il ne se plaint. Il est toujours joyeux, content, patient. Il parle à chacun de nous, il écoute, il nous donne du courage. L'infirmière se dirige vers le lit de Simon. Vous avez fait un miracle. Vous faites envie à tous. Vous êtes toujours heureux et joyeux, malgré vos douleurs. C'est formidable, merci. Comment ne le serais-je pas, répond Simon. C'est grâce à mon visiteur. C'est lui qui me rend heureux jour après jour. Votre visiteur? Mais Simon, il n'y a jamais personne qui vient vous voir. Vous êtes seul du matin au soir. Je n'ai rencontré aucun membre de votre famille ni aucun ami. Alors, quand vient-il? Tous les jours à midi, répond Simon dans un élan joyeux. Il se tient là, au pied de mon lit. Je le vois et il me dit toujours, « Simon, c'est Jésus ».
Je t'exalterai, Seigneur.
Je vais lire les textes qui vont servir de base à la prédication d'Armand. Ces textes, si vous suivez dans votre Bible, vous n'allez peut-être pas retrouver toute l'intégralité parce qu'ils ont été remaniés un peu par Armand, mais ils vont être projetés, alors vous pouvez suivre sur l'écran. Le premier, dans Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 5. « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Le deuxième texte. Dans Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 18. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Et un troisième texte, dans Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. »
Bonjour à chacun et je vous souhaite aussi à tous une bonne et heureuse nouvelle année. Bien sûr, cela a déjà été évoqué, nous sommes un peu à la charnière d'une année qui se termine et qui va démarrer, ou la nouvelle année va démarrer dans quelques heures. Donc c'est 2012 qui va faire sa place à 2013. C'est aussi le moment où on envoie du courrier, on se salue, on échange des vœux. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans l'échange de ces vœux, ce sont toujours des vœux vers l'avenir. On propose des vœux et on échange des vœux pour ce qui est devant nous. Et puis, en consultant l'Écriture, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais du passé? Est-ce que le passé a quelque chose à nous dire? Est-ce que le passé a quelque chose à nous enseigner? Et c'est pour cela que vous avez vu sur l'écran ce fameux texte du livre de Deutéronome qui justement un peu exceptionnellement parle du passé. Alors mon message aujourd'hui sera partagé en trois sections, le passé, le présent et l'avenir. Ça correspond aussi aux images que vous avez vues sur l'écran. Pourquoi parler du passé? Est-ce utile? Personnellement, je crois que Dieu nous invite à nous tourner de temps en temps vers le vécu du passé, non pas pour se culpabiliser, mais peut-être pour apprendre quelque chose de ce passé, pour apprendre quelque chose pour le futur ou pour le présent d'abord. Au cours de sa longue marche, Israël, cette marche dans le désert, comme nous le savons, qui a duré 40 ans, a vécu toutes sortes d'expériences, les unes positives, d'autres négatives. J'ai pas fait le compte des deux résultats, mais dans ce texte que vous avez vu, Deutéronome 8, nous sommes à la veille, ou peut-être l'année, ou en tout quelques mois avant le passage ou la conquête d'Israël pour le pays de Canaan. Donc Israël est de l'autre côté du fleuve, encore. C'est comme ça que le texte se présente. Israël est de l'autre côté du fleuve, prêt à entrer dans le pays promis après une histoire bien compliquée, faite de victoires et de défaites. Mais c'est quand même la victoire qui prédomine, puisque ce peuple arrive au bord de la frontière, au bord de à l'autre côté du Jourdain. C'est comme ça qu'on expliquait les frontières autrefois. Mais dans ce livre du Deutéronome, qui est un peu un rappel du passé, un rappel de l'histoire, ça c'est étrange qu'au milieu du Pentateuque, on trouve ce livre du Deutéronome. Parfois on se demande qu'est-ce qu'il fait là, mais je crois qu'il a sa raison d'être. Moïse rappelle justement, c'est ce regard sur le passé, Moïse rappelle, se penche sur ce passé, sur ce peuple, sur tout ce qui s'est passé, et c'est très présent dans les premiers chapitres, les chapitres 1 au chapitre 7, et puis après ça continue. Mais au milieu, après le chapitre 7, nous avons le chapitre 8 qui sort d'une manière assez étrange, où tout d'un coup Moïse rappelle au peuple « Souviens-toi ». Comme si Moïse craignait que Israël, le peuple d'Israël, oublie tous les bienfaits dont le peuple a été besoin. Et Moïse énumère un certain nombre de choses que nous connaissons, l'histoire de la manne, l'histoire des serpents, l'histoire de l'eau dans le désert, etc. La soif, l'eau, etc. Enfin, il rappelle un peu tous ces événements que Dieu a accordés, et en particulier, il rappelle aussi le don de la loi, des 10 commandements. Et le reste du livre du Deutéronome, c'est un peu une application, une explication des conséquences de cette loi qui a été donnée au peuple d'Israël. Alors, comment se fait-il que tout d'un coup, comme un peu une fusée, il y a ce chapitre 8? Alors, je crois distinguer dans ce rappel du passé, vous pouvez le relire parce que c'est un texte très intéressant, j'ai concentré le maximum, mais Moïse explique comment Dieu a pris soin. Il a pris soin du vêtement, il a pris soin de la nourriture, il a protégé ce peuple dans un environnement hostile. Mais je crois distinguer deux raisons principales à cette exhortation particulière. Comme je l'ai déjà dit, située là au milieu de ce livre du Deutéronome. Moïse rappelle premièrement que Dieu a pourvu aux besoins physiques malgré les inconsistances, les infidélités ou les révoltes de ce peuple. Ça, c'est très très fort. Rappelle-toi que Dieu a pourvu. Et je crois que c'est quelque chose qui est aussi important pour nous de nous souvenir de ce que Dieu a fait. Et puis il y a un deuxième aspect, une deuxième raison, je crois, elle est là dans cette partie de l'exhortation qui parle du cœur. Moïse parle d'abord d'aspect matériel, de la manne, etc., les choses nécessaires à la vie. Et puis c'est là que nous trouvons cette parole importante que nous avons répété souvent dans nos chants ou dans nos rencontres, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est l'origine de cette parole. Je me souviens que lors des camps de jeûne, on a souvent chanté ce chant, et sans jamais beaucoup se poser la question d'où est-ce qu'il vient, où il a été formulé la première fois. Et là, on voit très bien, dans cette remarque de Moïse, ce qui rend Israël attentif à l'aspect spirituel. Il faut se souvenir que c'était un peuple en devenir, qui était sans doute très loin, en tout cas de la volonté de Dieu, si on ose dire ainsi. Il a fallu les 10 commandements pour cadrer ce peuple. Ça n'a pas été très facile, c'est pas très facile aujourd'hui encore. Mais déjà, dans cette première partie, dans cette trajectoire dans le désert, Dieu a sondé le cœur du peuple d'Israël pour voir ce qu'il y avait dans son cœur, avec un avertissement en disant de peur, D'abord que tu oublies les bienfaits de Dieu et de peur que ton cœur s'élève en t'attribuant le succès de cette marche dans le désert et des victoires qui sont relatées aussi dans ce livre. Dieu, manifestement, à travers ce vécu d'Israël, en positif et en négatif, rappelle sa grande fidélité. Cette grande fidélité qui va accompagner ce peuple dans le pays de Canaan. Donc nous sommes là juste à la frontière, au moment où Josué va reprendre le relais et va conduire le peuple. Alors, je m'arrête ici pour Israël, mais j'essaie de porter ma réflexion sur moi, sur nous-mêmes, et je comprends à travers ce texte qu'il me semble évident que nous aussi, nous pouvons apprendre quelque chose de très profond sur nous-mêmes en nous livrant à cette réflexion sur notre passé. Notre passé, chacun le connaît, c'est un secret de chacun. Et je sais que cette année, qui a sans doute été très différente pour chacun d'entre nous, il y a eu aussi des moments forts, des moments plus difficiles, des moments d'encouragement, des moments de déception. Il y a peut-être eu la maladie, des circonstances conflictuelles peut-être. Tout cela fait partie de ce vécu. Et pourtant, je crois que toutes ces choses que nous avons vécues au cours de cette année, ou même si nous regardons plus en arrière, quelque part doivent être une leçon, doivent être en tout cas des points de repère pour faire mieux, pour être averti de certains obstacles que nous pourrions rencontrer. Et comme Jacques nous l'a déjà dit ce matin, et je suis très sensible à ça, nous restons quand même un groupe de personnes, une communauté très privilégiée. Nous sommes venus ce matin sans aucune difficulté. La seule difficulté que nous avons, c'est de trouver la force et la volonté d'être ici à l'heure. Mais nous voulons nous souvenir aussi ce matin de la situation de beaucoup d'autres chrétiens. Je pense aux chrétiens de la Syrie, de l'Égypte, du Nigeria en particulier, d'autres pays, on pourrait allonger la liste. Alors, je crois que notre réaction et notre attitude devraient être une attitude de reconnaissance. Alors maintenant, je termine en réfléchissant un petit peu à notre passé et j'en tire deux conclusions qui ressemblent aussi aux conclusions qu'on a pu tirer du texte du Deutéronome 8. Je dirais Dieu a pourvu à nos besoins malgré des moments difficiles. Dieu a pris en charge ce passé. Et nous savons bien, et nous allons le rappeler tout à l'heure au cours de la Sainte Cène, Dieu prend en charge ce passé. Et si je signale le passé, c'est justement dans le sens positif, afin que nous apprenions quelque chose de ce passé. Encore une fois, non pas pour nous culpabiliser. Ce passé, ce vécu du passé, nous invite à partir de nos lacunes, à partir de nos erreurs peut-être, à faire mieux pour le présent et le futur. Et puis finalement, réfléchir sur ce passé nous invite surtout à l'action de grâce, à la reconnaissance, à la louange, dire à Dieu un grand merci, et spécialement dans ce dernier dimanche de l'année. Et nous pourrons sans doute avoir l'occasion tout à l'heure d'exprimer cette louange au cours de ce culte. J'arrive au présent. Après cette réflexion sur le passé, arrêtons-nous quelques instants sur le présent. Peut-être avez-vous été surpris par l'image apparue sur l'écran, ce soldat suisse protégé par un pare-balles, un gilet pare-balles, mais avec le signe sur le casque de la croix, ce qui signifie l'intention d'aller à la rencontre de l'autre pour le défendre ou le protéger dans un environnement hostile. Dimanche dernier, il y avait ici sur le podium ce déguisement du soldat romain. Il est plus large, je pensais qu'il serait encore là aujourd'hui. Mais j'ai utilisé cette image grâce à Blaise, qui a fait des recherches pour moi. Vous avez vu, ce soldat, il est protégé par un gilet pare-balles. Et il y avait plusieurs images à choix, et je n'ai pas voulu prendre une image où le militaire portait le fusil. Là, il porte un bâton, c'est beaucoup plus paisible. Mais tout ça, c'est pour que nous comprenions mieux cette image que Paul utilise pour transmettre un message quand même très important. Donc, c'est cette image du soldat ou celle du roi de la semaine dernière nous renvoie donc au texte de Éphésiens 6, 13 à 18, qu'on appelle l'armure du soldat chrétien. Paul est donc prisonnier à Rome. C'est sans doute vers la fin de sa vie, sans doute qu'il a à peu près 60 ans. Ça reste bien sûr relatif. Et il est là et s'adresse sans doute que c'est la dernière lettre que Paul a écrite en prison à Rome et qu'il adresse aux chrétiens d'Éphèse. Et il a devant lui justement ce soldat, sans doute le gardien, parce que ce n'est pas par hasard qu'il utilise cette illustration du soldat romain. Il doit y avoir une présence très proche de ce gardien, et il s'est inspiré, disons, de l'image, de l'armure de ce soldat romain. Et dans cet épître, il aborde aussi des questions très importantes, la question de notre vocation, de notre statut en Christ. Il ouvre aussi cette possibilité d'être attentif aux bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il parle aussi des cultures différentes, la difficulté de ces cultures à se rencontrer, à vivre ensemble. Il semble que c'est de l'actualité. On n'est pas très loin de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que nous vivons. Et puis, il évoque aussi, bien sûr, la vie d'autrefois et la vie maintenant. Pourquoi est-ce qu'il rappelle l'autrefois? C'est pour que le maintenant surgisse d'une manière plus évidente, plus lumineuse. Je vous invite à relire cet épître en relation justement avec cette armure qui nous est présentée et qu'il nous faut bien sûr spiritualiser. Bien sûr, notre milieu culturel et historique ne ressemble guère à celui d'Éphèse, de l'époque de Paul. Pourtant, moi, je crois qu'une évolution se dessine dans notre culture et que certains penseurs définissent comme post-chrétienne, à voir si vraiment elle a été entièrement chrétienne dans notre histoire européenne. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Mais je crois profondément que notre présent et notre futur se vivra de plus en plus dans l'indifférence, dans ce qu'on appelle l'indifférence spirituelle, et qui risque petit à petit, sans doute que je ne verrai pas, j'espère pas, qui risque de se confirmer en opposition avec ce que vous et moi croyons aujourd'hui. Je vous donne simplement un exemple. Nous avons essayé d'animer une après-midi un peu culturelle avec Erissou, à l'EMS à côté. On a tout de suite eu un avertissement. Attention, pas de prosélytisme. Donc, c'est tout près, c'est à côté ici. Et je pense que c'est quelque chose qui se développe, auquel nous devons faire face. C'est pour ça que ce revêtir d'armure spirituelle dont il est question ici me semble tellement important. Donc, nous sommes invités, face à cette nouvelle année, à revêtir ce que Paul proposait aux chrétiens de son époque. Armez-vous de la vérité. Vivez dans la justice, pratiquez la justice, manifestez de bonnes décisions, mettez en pratique votre foi, pratiquez la parole et la prière avec le secours du Saint-Esprit dans la persévérance. Il y a là tout un paquet qui, bien sûr, est transporté à travers cette image du soldat romain et de son armure. Certes, c'est un langage qui peut paraître très spirituel, mais que Paul transmet aux Éphésiens par sa lettre, mais qui reste d'une très grande actualité. L'avenir. Il y a beaucoup de questions autour de l'avenir, autour de l'avenir de la planète. C'était dans les médias d'une manière très forte ces derniers temps. Il y a même eu une émission d'Infrarouge, je ne sais pas si certains l'ont vu, autour de cette question soulevée et bien sûr abondamment commentée par les journaux et les médias. Mais la plupart des gens rencontrés avaient un espèce de sourire dubitatif. Il y a peu de gens qui y croyaient vraiment. Pourtant, il y a certainement eu des moments d'angoisse pour un certain nombre de personnes à cause de cette question de l'avenir, l'avenir de la planète. Mais ce qui m'a étonné au cours de cette série d'émissions, c'est qu'il n'y a pas eu pratiquement un seul commentaire sur l'avenir de l'homme dans le sens où nous, chrétiens, le définissons. Ou plutôt, comment définissent cet avenir les Écritures. Et lors de l'émission, en contact direct avec le professeur de théologie Romer de Lausanne, que je connais personnellement, celui-ci esquivait presque la question. J'étais un peu désespéré. Je pensais que, vu que cette émission s'adressait à un théologien qui a un certain renom, Romer, il a écrit plusieurs livres, j'espérais avoir une réponse un petit peu plus percutante par rapport à l'espérance chrétienne, parce que tout ça, c'était absent. Et puis, il a fallu attendre quelques jours que ce soit un professeur de théologie catholique lors d'un téléjournal qui a vraiment évoqué l'espérance chrétienne. C'était vraiment contrastant. Et ça dit quand même pas mal de choses, ces deux attitudes. Tous ces bruits et tous ces échanges m'ont amené à réfléchir à mon avenir et à celui des chrétiens, puisque c'était totalement absent. On a parlé de beaucoup d'autres possibilités, mais l'espérance chrétienne était absolument occultée. Puis, nous le savons, plus les années s'amoncellent, plus cette problématique de l'avenir devient pertinente. Il y a un âge où on n'y pense pas trop. On est dans le mouvement, on a des projets, on est peut-être jeune chef de famille, etc. Ce n'est pas quelque chose qui nous aborde spontanément. Mais moi, je vous dirais que lorsque les années sont là, très gentiment, on réfléchit davantage à cette question de l'avenir. Et lorsqu'on perd quelqu'un de proche ou un ami avec qui on a fait un bout de chemin de vie, la question revient et nous habite et nous oblige à faire face à ce mystère bien au-delà de l'année 2013 qui est donc à la porte. Alors, quelles sont nos certitudes face à cet avenir, face à ce questionnement? Et il fait bon de rappeler le dialogue que Jésus a eu avec ses disciples, précisément inquiets sur cette question de l'avenir ou de l'éternité. C'est pour cela que j'ai choisi ce texte de Jean 14. Il est vrai, et il faut le redire, la foi, don de Dieu, me permet d'envisager cet avenir avec certitude et confiance. Je ne dirais pas que c'est facile, après avoir assisté des personnes en fin de vie, c'est pas facile, mais c'est vrai. La foi permet de faire face à cette question, entourée bien sûr de beaucoup de mystères. Il est vrai que nous n'avons pas beaucoup de détails sur les demeures qui se trouvent auprès du Père que Jésus évoque. Le verset 4 et les suivants du chapitre 21 de l'Apocalypse nous éclairent un peu plus. Et ils affirment que dans ce lieu, dans ces demeures du Père, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrances, et la mort sera vaincue. Oui, je crois qu'il y a une ligne rouge qui relie le passé le présent et l'avenir. Mais je crois aussi que cette ligne rouge, elle est entre les mains du Seigneur. Et tout à l'heure, nous serons invités à exprimer à notre Dieu notre reconnaissance, parce qu'il est en charge de ces étapes de notre vie, de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Amen.